Voilà, nous avons des nouvelles de Nicolas Savadogo. Il va bientôt arriver, normalement le 25. Et puis de là, nous allons partir, lui et moi, pour faire une mission en Belgique. Mais avant cela, je vais aller prêcher sans doute à Rouen. Et un dimanche matin, ça serait bien si on pouvait tous aller. Ça serait super. Hein, aller tous là-bas, ça nous ferait sortir un peu du château, et voilà. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour le moment. On est bien là, au château. Chapitre 5 de Matthieu, toujours, puisque nous sommes dans les Béatitudes. Versets 13 et 16. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout ce soir de tout cela, mais on va déjà prendre, enfin, on va lire 5, 13 à 16. Alors, pour les nouveaux convertis qui ne connaissent pas bien où se trouvent les choses dans la Bible, ça se trouve à la page 1520 de la Bible Esprit et Vie. Je dis ça parce que je fais un petit coucou à Nicole et Jean-Daniel. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Je sais qu'ils écoutent les prédications là-bas en Suisse. C'est formidable de voir comment ils cherchent les choses de Dieu. C'est magnifique. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, cette dernière phrase m'a toujours un peu étonné parce que moi, quand je raconte les témoignages ou quand les choses se passent, les gens disent toujours oh, « Monsieur Michel, il est orgueilleux, alors il raconte tout ce qu'il fait. » Non, je raconte ce que Dieu fait. Alors, évidemment, voilà. Peut-être les gens étaient à cette époque un peu plus simples qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Voilà, donc le sel, la lumière, ce sont des métamorphoses. Le sel et la lumière, là, ça indique ici donc l'impact, un impact bénéfique que les disciples de Jésus-Christ peuvent avoir dans le monde. Alors, qu'est-ce que les doux, qu'est-ce que les pauvres, qu'est-ce que les miséricordieux peuvent apporter dans ce monde? Qu'est-ce que ceux qui pleurent peuvent faire de bon dans ce monde? Qu'est-ce que ceux qui cherchent à faire la paix plutôt que la guerre? Ça rapporte tellement d'argent, la guerre. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme bien durable sur cette pauvre terre? Ben, les disciples de Jésus, s'ils sont pauvres, doux, miséricordieux, etc., ils doivent être submergés par l'ambiance générale du mal, par ce raz-de-marée. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Un peu submergé maintenant, l'Église. On n'en entend plus beaucoup parler, sauf pour des problèmes. Les télévangélistes de scandale, les prêtres de scandale, mais autrement. Qu'est-ce que peuvent bien apporter ceux dont la seule passion, c'est la justice du royaume? Chercher premièrement la justice, n'est-ce pas, du royaume. Qu'est-ce que peuvent apporter ces gens-là, ou terriens, ceux qui ont pour unique arme la pureté du cœur, hein, je vous reprends tout ce que Jésus a dit auparavant dans les Béatitudes, et qui en plus sont vraiment une minorité. Heureusement, Jésus dit, vous êtes le sel. Et dans les plats, on met très peu de sel. Hein, on met très peu de sel. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel. On ne met pas plus de sel qu'il n'y a de nourriture dans l'assiette, non? Voilà. C'est Simone qui fait une roule de tête, parce qu'alors elle sale. Mais en tout cas, une chose est certaine, quand on écoute Jésus parler comme ça, parce qu'il faut s'imaginer, il parlait à des villageois là, qui étaient là, qui l'écoutaient, il y a 2000 ans, vous imaginez. Il parlait à ces gens-là, il n'était pas pessimiste. Hein. Il n'était pas pessimiste, Jésus dit, il leur disait, voilà, ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir impressionner le monde, apporter quelque chose. Ah, il dit qu'on ne pourra pas éviter la persécution, ça c'est sûr, mais il dit qu'il est de notre devoir de servir les terriens qui nous persécutent. Ah, Jésus est là, il parle donc à ce groupe de villageois qui écoutent, puis il leur dit, vous êtes le sel de la terre, il est en train de les flatter ou quoi? Non, 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 non. Vous êtes la lumière du monde. Hein, des fois, on dit, ah ben lui, c'est pas la lumière, hein, c'est pas une lumière. Ben, Jésus dit que les chrétiens sont la lumière du monde. Il leur dit que leur influence, l'influence de ceux qui le suivent, eh bien, elle va se propager dans le monde. Dans le monde. Vous vous rendez compte, l'évangile de Matthieu, pour ceux qui connaissent bien les Écritures, vous savez que c'est l'évangile qui est le plus marqué par le judaïsme. Et les chrétiens, les gens d'Israël, c'était leur Dieu, il n'était pas question, les gens à l'extérieur. Eh bien, Jésus a fait allusion à la terre entière dans cette parabole. Il fait déjà allusion à la puissance dont les siens vont disposer pour aller faire du bien dans le monde entier. Et ils vivent la joie, ils écoutent. Il y en a même qui ne sont jamais allés à Jérusalem encore. On leur parle de la terre entière, le monde entier. À l'époque, le monde entier, on ne sait même pas qu'il est, que c'est un globe. Enfin, sauf ceux qui ont lu Moïse, parce que Moïse dit que c'est un globe. Mais voilà, donc, l'Amérique, on ne connaît pas. L'Australie, on ne connaît pas. On connaît quoi, hein? Le bassin méditerranéen. Puis ces villageois, ils connaissent quoi? Enfin, je ne sais pas, à leur niveau, il y a 2000 ans. Mais en tout cas, ils comprennent ce que lui, il dit. Ce que Jésus dit, parce que ce qu'il dit, bon, le sel, ils en ont tous dans leur maison, même les plus pauvres. Puis de la lumière aussi, même s'ils n'ont pas l'électricité, ils ont quand même bien un peu une lampe à huile ou quelque chose. Enfin, en tout cas, une fenêtre qui laisse entrer la lumière du soleil. Ils savent bien ce que c'est la lumière, ils savent bien ce que c'est le sel. Et Jésus parle du sel et de la lumière parce que c'est une nécessité évidente. On a besoin de lumière, on a besoin de sel. Dans notre communauté, les jeunes gens sont vraiment privilégiés. Parce qu'ils ont des études chaque semaine, je ne sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte, parce que bon, ils ont des copains, des copines, mais les copains, les copines, ils n'ont pas tout ça. Premièrement, des études bibliques par Mélodie, des choses de base, des choses des écritures, voilà, ils fouillent là-dedans, ils étudient. Et puis, ils ont des études qui leur donnent les clés pour obtenir des résultats, et ça c'est donné par Éric Jacques, mon gendre. Ce sont des études, ces études-là, c'est de la lumière. Il ne suffit pas de venir simplement à l'étude, il ne suffit pas simplement de poser son derrière là pendant l'heure de l'étude, mais encore faut-il accepter, prendre cette lumière qui est proposée. Vous avez des gens qui ne viennent pas à la lumière, ils viennent à la réunion, mais ne viennent pas à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes ici, par exemple, à la chapelle, il faut venir à la lumière, il ne faut pas venir simplement à la chapelle en disant « Bon, ben voilà, c'est un moment à passer, après on sort, on est encore pour trois quarts d'heure, puis après on s'en va. » Non, non, il faut venir à la lumière, il y a quelque chose, il y a une lumière qui est donnée là. C'est une lumière, mes frères et sœurs. Et ceux qui viennent à la lumière qui leur est proposée, eh bien, ils vont progresser, je pense particulièrement à nos jeunes, à pas de géant, parce qu'ils auront le meilleur, les principes, les techniques, les stratégies que les gens ignorent. Les gens de ce monde ignorent ces choses, ces principes, ces techniques, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos émotions, pourquoi, comment contrôler tout ça, comment pouvoir aider aussi une personne qui a des émotions qui sont déréglées, etc. Toutes les stratégies, tout ça, c'est des choses qui sont cachées dans les pages de la Bible, mais ces vérités-là sont mises en lumière aujourd'hui par Éric et Mélodie, c'est ça permet l'éveil de la puissance intérieure qui est dans ces jeunes gens. Parce que nous avons une puissance intérieure bénéfique, et cette lumière-là qui leur est donnée est bénéfique, et parce que grâce à cette lumière, ils peuvent voir les choses qui existent réellement au fond d'eux, et non pas simplement penser comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde croient qu'ils sont dans la lumière, ils sont dans les ténèbres, c'est des ténèbres. Leur lumière est ténèbre, la Bible dit. Leur lumière est ténèbre. Et dans les églises, en général, moi je me rappelle, hein, les réunions de jeunes, excusez-moi, c'était... Hein, toi aussi, Franck Guillermo, tu connais les réunions de jeunes, il en a été... Qui c'est dans les vieux chrétiens qui connaît, qui était dans les réunions de jeunes, comme on disait autrefois? Michou, c'était bien les réunions de jeunes à l'église? Oui, mais en tant qu'en converti, c'est autre chose. Mais dans la véritable église de Jésus-Christ, je ne dis pas dans les églises apostates, dans la véritable église de Jésus-Christ, même là, dans les réunions de jeunes, c'est... Voilà, c'est pipo, on vous parle de Zachée à non plus finir. Il n'y a pas, on n'explique pas les stratégies pour gagner, pour réussir, pour arriver à se battre et être vainqueur dans la vie. Alors, ça c'est une chose que nous on peut faire parce que comme on est ensemble, c'est plus facile. Puis en plus on se connaît, on se fait confiance. La lumière, Moi, je me rappelle une fois, on avait une réunion de jeunes, celle-là, je m'en souviendrai toujours. Ils venaient de sortir, moi, je revenais de l'école biblique, des choux, les gitans, et voilà que je vois sur des affiches qu'ils avaient, ils passaient le film « Son pays » de Billy Graham. Vous avez vu ce film « Son pays » de Billy Graham? C'est vieux, hein, ça date, je vous parle de ça, ça date, ça fait 40 ans ce film. C'était avec Cliff Richard, qui s'était converti, puis qui chantait dans ce film. C'était très beau, ça racontait la renaissance du pays d'Israël, et c'était un film d'évangélisation, c'était magnifique. Je l'avais vu à l'école biblique, je vois qu'il passe à Lausanne. Alors je dis au pasteur, et le pasteur dit « Ah super, on va y aller ». Et sa femme dit « Ah non, le cinéma c'est du diable hein. !» Le cinéma c'est du diable. Alors bon, lui dit « Mais non, c'est un film chrétien, c'est un film chrétien, un film qui avait été certainement levé sa main dans une réunion et qui avait été plongé dans l'eau, peut-être, je ne sais pas, hein, qui ne fumait pas, peut-être. Hein. » Et puis ensuite, il dit « On y va ». Alors on prend les voitures et puis on se rend dans ce cinéma. En fait, c'était à Beaulieu, à Lausanne. On arrive au premier feu rouge, la bonne femme qui était derrière nous, bang, elle rentre dans la voiture du pasteur, la femme du pasteur. « Ah, je vous l'avais bien dit, on n'est pas dans l'obéissance, on va au cinéma, et bien le diable, voilà, le diable. » Les jeunes, quelle instruction peuvent-ils avoir, ces jeunes, quand on leur parle de choses si bêtement que ça? Vous êtes d'accord, c'est terrifiant. Et bien voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Ça fait mal au cœur, c'est pourquoi moi j'ai voulu une église différente. Et on donne à chacun la possibilité, mais vous n'êtes pas obligé de prendre, mais si vous prenez, vous allez être des gens vraiment éclairés. Donc la lumière. Ceux qui ne marchent pas dans la lumière, la Bible dit qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils fonctionnent dans les ténèbres. Marcher, ça veut dire fonctionner. Ça veut dire avancer, vous avancez dans les ténèbres. Si quelqu'un ne reçoit pas la lumière, il est dans les ténèbres. Il se cogne partout, il tombe dans tous les trous, hein, et il se trompe de direction, il ne sait plus où il en est. Ça, c'est un peu ce qui se passe dans ce monde. C'est pourquoi on veut obéir à Jésus pour être la lumière du monde, pour éclairer le monde. Et en particulier nos enfants, parce que nos enfants, ce n'est pas forcé qu'ils soient convertis. Ils ont besoin de passer par la conversion. Alors, nous voulons leur enseigner les techniques, les stratégies pour utiliser leur puissance bénéfique intérieure pour qu'ils puissent vivre d'une façon abondante, comme Jésus a dit, « Je veux que vous ayez la vie et la vie abondante ». Alors, vous êtes la lumière et vous êtes le sel. Le sel, il a des usages divers. Par exemple, premièrement, c'est un condiment, mais c'est aussi un agent conservateur. Bon, aujourd'hui, plus tellement parce qu'on a des frigos, mais à l'époque, il n'y avait pas de frigo et on mettait la viande dans le sel. Moi, je crois que ça se faisait encore dans les campagnes. Moi, je me rappelle avoir vu des saloirs. Hein, Rachel, tu as connu ça, toi, hein, Simon aussi. Des saloirs. Alors, c'était un peu comme... Vous savez, quand on va chez les ruises, vers la fenêtre, il y a un meuble là. Ben, ça ressemblait à ça, un saloir. Hein, c'est ça, un peu. Comme une mets, si vous voulez. Alors, on mettait plein de sel. On mettait les gros jambons dedans. On mettait du sel, une couche de sel par-dessus. Puis ça le conservait pendant des mois. Il ne pourrissait pas. C'était les vertus, une des vertus du sel, c'est de conserver justement les aliments. Job, il disait ça, il disait aussi, au sujet du fait que c'est un condiment, « Ce qui est fade, se mange-t-il sans sel ?» Alors, Job, il n'est pas copain avec Stéphane, parce que Stéphane, plus c'est fade, mieux c'est. Mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en général, on met du sel dans les aliments pour que ça fait ressortir le goût. Si on met trop, alors on sent le sel. Il ne faut pas qu'on sente le sel. Il faut juste qu'on sente le goût. Hein. C'est un condiment. Et du temps de Jésus, on n'avait pas inventé le frigo. Donc voilà, le sel, c'était ce qui conservait en particulier la viande. Alors, que dire? Eh bien, une fois de plus, que quand on écoute ce que Jésus est en train de dire là, il dit qu'il y a bel et bien l'Église et le monde, et c'est deux entités différentes. Il dit... Ce sont en fait deux communautés. Nous, les gens nous disent « Ah, vous vivez en communauté ?» Nous, on ne pourrait pas. Mais ils vivent en communauté. De la communauté du monde. Ils vivent en communauté. Et d'un côté, vous avez ce que je dis, ce que la Bible appelle le monde. Et puis de l'autre côté, il y a vous, la lumière du monde. Ces deux groupes, ils sont en contact l'un avec l'autre. Et on va voir un peu ce que Jésus nous fait comprendre quand il dit ça. Le monde n'a pas de lumière ou peu de lumière. Peu de lumière. Le monde, d'après ce que Jésus dit là, c'est un endroit obscur. Cependant, il faut savoir que le monde est convaincu qu'il connaît la lumière. Le monde est convaincu d'être dans la lumière. Et c'est ça le problème. Il est convaincu que c'est nous les ténébreux. Il est convaincu qu'il est dans la lumière. Et essayer de convaincre quelqu'un, non, il faut vraiment le secours du Saint-Esprit, mais il faut aussi que nous manifestions notre identité spirituelle, pas simplement notre personne telle qu'elle est, avec deux yeux, deux oreilles, non, et puis des capacités humaines. Il faut aussi qu'on manifeste notre identité spirituelle. Parce que la plupart du temps, ce que le monde prend pour la lumière, c'est des ténèbres. C'est des ténèbres. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, quand ils parlent de ce qui s'est passé entre 1950 et maintenant, ils disent l'évolution des mœurs. Vous trouvez que c'est une évolution, vous ? Vous trouvez que c'est une évolution ? Ceux qui trouvent que c'est une évolution, levez la main. Bon, vous avez compris, ce n'est pas une évolution. Ils sont dans les ténèbres, les pauvres. Et malgré tous les progrès que la science peut faire, et la science fait des progrès extraordinaires, le monde a une fâcheuse tendance à se détériorer. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, les terriens, en grande majorité, ils aiment le monde. Ils aiment le monde. Le monde, ce n'est pas insipide du tout pour eux. Pour qui c'est insipide ? Pour qui c'est immangeable ? Pour Dieu, mes frères et sœurs. Pour Dieu, c'est immangeable. Et si c'est immangeable pour Dieu, ça doit être immangeable pour nous aussi. Le monde, il ne parvient pas à trouver le remède à sa maladie. Seul du sel venu d'ailleurs peut le guérir. Mais il nous rejette. Il nous rejette. Quand je dis que seul du sel venu d'ailleurs peut le guérir, je devrais plutôt dire peut au moins empêcher ou retarder le processus de décomposition. Nous sommes là pour ça, mes frères et sœurs. Pas simplement pour vivre en communauté, se lever le matin, aller au travail, pour gagner sa vie, manger à midi, retourner au travail, rentrer le soir, manger, regarder la télé, ou jouer à ceci ou à cela, puis ensuite aller faire dodo. Non, non. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde. Partout là où nous sommes, nous avons à rayonner, à donner du goût, à imposer notre véritable identité. Voyons ce que Jésus dit encore. Il commence par une affirmation. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Puis ensuite, il ajoute une condition. Il dit, une condition dont dépend absolument l'affirmation qu'il vient de faire. Il dit, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais ensuite, il dit... Le sel doit maintenir sa saveur. Voilà la condition. Le sel doit maintenir sa saveur. Ensuite, la lumière, elle doit pouvoir briller. Parce que la lumière, c'est toujours de la lumière. Mais si vous la mettez sous un boisseau ou sous une caisse ou derrière un truc, un machin, elle peut briller tout ce qu'elle veut, elle n'éclaire rien du tout. Vous comprenez ce que Jésus veut dire par là ? Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas cacher l'identité que nous avons. Est-ce que vous correspondez à votre identité spirituelle dans votre façon de vous comporter dans votre vie ? Le monde, lui, il se décompose. Ah, il est franc, hein, on voit. Il se décompose. Les disciples de Jésus, eux, ils ont la possibilité d'empêcher cette décomposition. Bon. Mais Dieu sait très bien comment est son peuple. Alors, il a pourvu encore à d'autres choses pour limiter le processus de décomposition. Dans sa bonté, il a accordé à l'humanité, une grâce extraordinaire. Par exemple, il a établi des institutions, comme par exemple les États. Ça permet de limiter l'égoïsme des terriens, ça permet d'empêcher que la société sombre dans l'anarchie. Bon, l'État, il a l'autorité d'établir et de faire respecter les lois, donc c'est quand même quelque chose d'important. Puis vous avez la famille, c'est une autre institution que Dieu a inventée. Mari, femme, parents, enfants, tout ça, les États, la famille, ça exerce une saine autorité dans la société. Heureusement qu'il y a ça. Bon, vous allez me dire, mais maintenant, c'est de plus en plus corrompu, aussi bien les États que la famille. Mais que voulez-vous que je vous dise ? On est dans un état de décomposition. Le monde est dans un état de décomposition, c'est vrai. Bon, maintenant, Dieu a voulu que son peuple prédestiné, que son peuple racheté, constitue une sorte de garde-fou solide. Dans le monde, il crie entre la République et la Bastille en disant que tout est la faute du gouvernement. Même, je me rappelle, quand il y a eu la canicule, c'était la faute du gouvernement. Enfin, tout est la faute du gouvernement. Les disciples, eux, Jésus veut que nous nous prenions au sérieux en tant que ce que nous sommes réellement spirituellement et au sujet de nos fonctions, ce qu'on a à faire En fait, ce que Jésus veut, c'est que nous agissions comme un désinfectant. Il veut qu'on agisse comme un désinfectant dans ce monde où les normes morales sont nivelées par le bas. Ça, c'est ce qu'il veut, et tout ça, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas comme ça réellement que ça se passe, malheureusement, parce que les chrétiens sont remplis de toutes sortes de craintes, de toutes sortes de retenues et de toutes sortes d'excuses. Voilà, moi, je ne me sens pas appelé, des choses comme ça. C'est parce qu'ils ne sont pas enseignés au sujet, justement, des principes qui sont en eux, qui régissent leur vie, des stratégies, des techniques à employer pour être vraiment ce que Jésus veut qu'ils soient. Ils ne sont pas enseignés là-dessus. Ils se sentent poussés ou ils ne se sentent pas poussés. C'est tout du ressenti, de l'émotion, mais c'est pas, il n'y a pas de connaissance au sujet des techniques spirituelles. Maintenant, l'efficacité du sel donc dépend d'un certain nombre de conditions. Il doit préserver sa saveur, il doit se préserver, vous devez vous préserver votre saveur. Maintenant, si vous regardez, en réalité, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Il peut la corrompre. Le sel, j'ai appris ça en potassant un peu, c'est du chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium, c'est un composant chimique extrêmement stable. C'est ce que nous devrions être, extrêmement stable. Bien assis en Jésus-Christ, certains de qui nous sommes, certains de ce que nous avons à faire, de comment le faire, nous devrions être cela. Mais étant donné que Jésus connaît ce que nous sommes, voilà, alors un jour il a dit, au moins ayez du sel en vous. C'est grave, hein, c'est grave. Parce qu'il sait que dans son peuple, déjà dès le départ, il y a possibilité de se mélanger à des impuretés. Le sel peut se mélanger à des impuretés. Et une fois qu'il est mélangé avec des impuretés, il devient inutile et même dangereux. Ça peut devenir un poison. J'ai lu que le sel dessalé ne peut même pas être utilisé comme engrais. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire qu'un chrétien qui n'est pas au fait de son identité, qui n'est pas correctement dans sa position de chrétien, il n'est même pas de la merde. Excusez-moi, mais c'est ça que ça veut dire quand c'est écrit, c'est un article scientifique que j'ai lu, le sel dessalé ne peut même pas être utilisé comme l'engrais. Et Jésus dit, si vous perdez votre saveur, vous êtes bon à jeter. ça veut dire ce que ça veut dire. Mais non, c'est terrible, Michel, ce que tu nous dis, ça ne nous édifie pas. J'espère bien que ça ne vous édifie pas. J'espère que ça vous secoue, puis que ça vous fait un peu peur, puis que ça vous fait un peu vous mettre à vous viriliser. Un jour, Jésus a dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Marc 9, 51. Mes frères et sœurs, ce qui fait la saveur du disciple de Jésus, c'est une personnalité telle qu'elle est décrite dans les Béatitudes. Voilà pourquoi il donne les Béatitudes d'abord, puis ensuite, dans son sermon, il développe et il parle du sel, de la lumière, et vous allez voir encore de bien d'autres choses. Mais tout est appuyé sur ces 8 paroles des Béatitudes dans son sermon. En se faisant baptiser, c'est à ça qu'on s'est engagé, à devenir une personne conforme aux Béatitudes. C'est pas « oui, je m'engage » à lire ma Bible tous les jours, on peut lire Harry Potter tous les jours. Oui, je manque. Ça ne change pas la vie, vous voyez ce que je veux dire, c'est distrayant de lire un bouquin. Mais la Bible, on ne le lit pas parce que c'est distrayant, mais parce que c'est une nourriture pour notre âme. C'est là qu'on apprend des techniques, des choses de la foi, des choses de l'amour, du vrai amour, je ne parle pas de l'amour sentimental, etc., etc. Quand on s'engage dans les eaux du baptême, on ne s'engage pas simplement à aller poser son derrière dans une église tous les dimanches. C'est beaucoup plus profond que ça. On s'engage à ne pas s'assimiler à ceux qui ne sont pas semblables à Jésus. On est là pour mettre juste un peu de sel, pour leur donner du goût, mais pas pour être complètement mélangé avec eux et allons-y. Non. Parce que si on fait ça, on va perdre notre influence. On doit être du sel, mais on doit être de la lumière aussi. On n'exerce pas notre influence dans la société quand on s'identifie aux terriens. En exerçant notre influence dans la société, comment dirais-je, pour l'exercer, cette influence, il faut se distinguer de cette société, se distinguer des terriens, être différent, être fier d'être différent. Vous avez toutes sortes de films en ce moment qui sortent pour glorifier le droit à la différence. En général, c'est pour glorifier le droit à la différence de... voilà. Nous sommes différents et on peut se glorifier d'être différent et on doit nous respecter en tant qu'être différent. Mais il faut être respectable. Alors au départ, c'est bizarre parce que le monde, il déteste le message de Jésus. Il déteste tout ce qui est là. Je me rappelle un soir, j'étais dans le quartier idéal avec des amis et puis j'ai parlé et puis j'ai prononcé le mot « joie ». Et une femme a dit « Oh, ça me fait penser à de la religion, le mot « joie ». Je déteste ce mot « joie ». Il y a des mots comme ça qui sont chargés. Les gens, ils ont une répulsion pour tout ce qui est religieux, foi, amour de Jésus, tout ça, ça les brrr. Mais quand nous qui sommes chrétiens, nous sommes infidèles à Jésus-Christ, alors là, ils nous en veulent. Hein? Quand on est fidèle au message de Jésus, les terriens sont rendus attentifs, ils critiquent, ils ne sont pas contents, ils peuvent même persécuter, mais cela glorifie Dieu. Mais si nous ne nous distinguons pas des terriens, nous sommes, la Bible dit, nous sommes inutiles. C'est ce que Jésus dit, inutiles, inutiles. Les terriens se mettent à nous mépriser, ils finissent par nous rejeter, comme tout être sensé jette à la poubelle du sel qui n'a plus de saveur. Ils nous rejettent parce qu'on n'a pas la saveur qu'on doit avoir. Ils s'attendent à quelque chose. Rejeter, fouler aux pieds, c'est ce que Jésus enseigne, c'est très dur. Il y a des choses qu'on fait comme le monde, puis il y a des choses qu'on ne doit pas faire comme le monde. Manger, respirer, tout ça, c'est comme le monde. Pleurer, on a le droit, rire, on a le droit. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Je n'ai pas besoin de faire la liste de ce qu'on ne fait pas. On sait très bien. Ces lois, elles sont gravées dans notre cœur, par l'Esprit de Dieu. Alors, en fait, les terriens qui sont réticents quant au style de vie des disciples de Jésus-Christ, ils sont choqués quand un disciple de Jésus-Christ fait une chose qui n'est pas correcte. Parce qu'ils ont une attente. Ils attendent quelque chose de nous. Ils attendent de nous la perfection. Mais il n'y a pas que Jésus attend aussi ça de nous. Il dit « Soyez parfaits ». Mais c'est les gens du monde nous regardent et ils s'attendent à ça. Alors comment font-ils? Ben, à leur façon. Ils nous tentent, ils nous mettent à l'épreuve, ils nous testent, ils nous poussent à bout pour voir le degré de notre engagement. Et ce n'est pas ça qu'ils font? Bien sûr que c'est ça qu'ils font. Et quand ils vous voient broncher, ils sont impitoyables. Peut-être pas forcément tout de suite, mais tôt ou tard, là! Jésus ne se trompe pas, hein? Il dit... Le sel qui n'a plus sa saveur, il est jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, pas par Dieu. C'est pas Dieu qui va vous fouler aux pieds. C'est pas Dieu qui va vous jeter dehors. C'est les gens, les terriens. Les terriens vont vous fouler aux pieds. C'est au verset 13. On ne peut pas échapper à ça. Jésus ne se trompe pas. Il sait comment ils sont et il sait comment on est. C'est pourquoi il nous avertit. Il dit, vous êtes engagés, alors maintenant, ben marchez de la façon, suivons votre engagement. Et, ben ça vous coûte, c'est vrai, c'est sûr, mais il y a aussi une récompense. Il y a une récompense. Non seulement dans le monde futur, mais déjà ici-bas. Parce qu'en étant le sel de la terre, eh ben, vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui a besoin, et d'une façon consciente de vous, et qui va trouver le Seigneur, et qui va trouver la paix, et qui va trouver de la saveur dans sa propre vie, et qui va se convertir, et qui va être reconnaissant, et qui va ça va être magnifique pour cette personne. Mais c'est vrai que c'est très peu, c'est très peu. En fait, quand on a chanté là tout à l'heure le chant, avec Jésus j'ai la vie, la paix, la joie, oui c'est très gentil ça, mais c'est pas vraiment vrai. Quand on vient à Jésus, on a tous les problèmes des gens du monde, plus les problèmes que Jésus rajoute à notre vie. Mais on a la responsabilité de fils et de filles de Dieu, ce qui fait que quand nous arriverons devant le Seigneur, nous aurons des récompenses, nous aurons des places d'autorité, nous aurons... Pas le monde n'aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous arrivez et que vous, vous avez failli ici-bas sur terre, Dieu ne va pas vous rejeter et vous fouler aux pieds? Non, pas du tout. Seulement, ben voilà quoi, vous aurez eu votre vie sur la terre. Les avantages que le monde peut donner, la joie que le monde peut donner, les plaisirs que le monde peut donner, les espérances que le monde peut donner. Voilà. Il y a une chanson qui dit « Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris ben, ». Oui, c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'on va apprendre à faire la grimace. Je sais que c'est comme ça. C'est comme ça. Et Jésus a raison. Donc, mes frères et sœurs, que cette prédication ne vous décourage pas, mais qu'elle vous aide au contraire à vous consacrer à Jésus-Christ, à rester fidèle à votre engagement, à celui que vous avez pris le jour de votre baptême. Et puis, à profiter de toute la lumière qui est dispensée ici au sanctuaire, de lire les choses, d'étudier les choses, d'en parler. Moi, je vois que je vais en Afrique, les gens veulent me parler. Ils sont toujours à me courir derrière. C'est très bien, mais des moments où je suis très fatigué, alors Nicolas me cache dans un coin. Et puis ici, alors les frères, les gens me disent « Ah, oh, mais quelle chance ils ont, les frères et sœurs de ta communauté. Ils peuvent te parler, ils t'ont toute la journée. » Alors je dis « Oui, alléluia. » Ils n'en profitent pas du tout. Je peux rester une semaine entière dans mon bureau sans que personne vienne me voir. C'est rigolo quand même. Hein? Quand on a tout, on ne s'en rend même pas compte. Frères et sœurs, faites attention à toutes ces choses-là. Vous avez des frères qui connaissent des choses, vous avez des sœurs qui connaissent des choses. Mettez tout cela en commun, vraiment, pas simplement le fait de vivre sous le même toit, mais mettez toutes ces choses en commun pour pouvoir être plus efficace dans votre témoignage, pour être plus salé, avoir plus de saveur, avoir plus de être plus lumineux dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de garder chacun dans ta paix, de permettre que cette prédication ne fasse pas un mauvais effet, mais au contraire un bon effet dans le cœur de chacun, et que chacun puisse se reconsacrer s'il y a besoin, et qu'ils se rendent compte du privilège. Nous sommes des nantis spirituels. Merci Seigneur. Veuillez avoir pitié de nous, parce que des fois nous ne nous en rendons pas compte et nous sommes ingrats. Mais je te prie Seigneur de nous aider à aller de l'avant et à nous réjouir de ce que tu nous as donné. Que ton nom soit béni Jésus. Amen.